94 94.
Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. En cette journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français, journée d'hommage aux Justes de France, en ce jour de la cérémonie de commémoration de la rafle du Vel'd'Hiv, en ce dimanche 18 juillet 2010, nous sommes très honorés et heureux de recevoir au micro de Mémoire Vive Serge Klarsfeld. Bonjour Serge Klarsfeld.
Oui, bonjour.
Alors, une confidence que nous devons aux éditeurs de Mémoire Vive, cet entretien est enregistré quelques jours avant ce dimanche de commémoration. Les 16 et 17 juillet 1942, 1129 hommes, 2916 femmes et 4115 enfants juifs ont été arrêtés par la police française et enfermés dans l'enceinte sportive du Vélodrome d'hiver. Simultanément, 1989 hommes et 3003 femmes, couples sans enfants et célibataires, étaient arrêtés et enfermés dans le camp de Drancy. La quasi-totalité des 13152 raflés furent déportés. Serge Klarsfeld, en ce jour de commémoration de la rafle du Vel'd'Hiv, comment ces jours sombres des 16 et 17 juillet se sont imposés comme le symbole des crimes de l'État français de Vichy?
Tout simplement parce que c'est une rafle gigantesque, c'est la Saint-Barthélemy sans la mise à mort sur place, mais dans un abattoir qui avait pour nom Auschwitz-Birkenau. Le temps passant, les événements moins importants, mais peut-être plus retentissants, ou qui concernaient plus la sensibilité des Français à l'époque, ces événements se sont peu à peu dissipés, et l'ensemble des événements a pris sa place, c'est-à-dire que la rafle du Vel'd'Hiv est un événement extrêmement important, puisque au fond c'était la France qui perdait son âme, la France de Vichy qui perdait son âme en trahissant la République, en trahissant les valeurs de la France qui étaient plutôt de chevalerie, d'honneur, etc. Et qu'elle faisait le sale travail des Allemands en livrant à la Gestapo des Juifs arrêtés par des uniformes français et des Juifs de tous âges et en particulier des milliers d'enfants. Alors on ne trouve pas dans toute l'histoire de France un acte plus vil que celui-là. Une interrogation qui est posée à la France, puisque cet acte sans doute le plus vil qu'on retrouve dans l'histoire de France, c'est de livrer des milliers d'enfants, après les avoir en plus séparés brutalement de leurs parents, cet acte-là est quelque chose qui trahit véritablement tout le passé de la France. Donc, c'est dans la conscience française, peu à peu, cela s'est imposé et aujourd'hui, la rafle du Vel'd'Hiv, surtout après le film qui a été diffusé et qui visualise cette rafle, puisque, à part la photo que j'avais retrouvée en 1990 à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, qui montre quelques véhicules devant l'entrée du Vel'd'Hiv, eh bien, il n'y a aucune image des 13 000 victimes, aucune image des 4 000 enfants arrêtés, et le film, donc, a un impact et a été vu par 3 millions de spectateurs, ce qui montre bien que la rafle du Vel'd'Hiv est tout à fait entrée dans l'histoire de France et à la place que malheureusement elle mérite. Et il ne faut pas oublier non plus que cette rafle a été faite avec l'aval, l'aval avec l'accord et la décision prise par le maréchal de France, l'homme le plus glorieux de France à l'époque, Philippe Pétain, avec l'accord de Pierre Laval, qui avait été plusieurs fois Premier ministre de la Troisième République, et puis l'accord et même l'impulsion de René Bousquet, qui était le fleuron de la technocratie bureaucratique française, le plus jeune préfet, avec Jean Moulin, le plus jeune secrétaire général pour la police, c'est-à-dire ministre de la police de Vichy. Ce sont ces trois hommes qui ont pris cette décision, qui a engagé pas seulement l'État français de Vichy, mais également la France.
Alors Serge Klarsfeld, vous organisez année après année une cérémonie devant l'un des lieux commémoratifs sur l'emplacement même du Veldiv dans le 15e arrondissement de Paris, donc avec l'association des fils et filles des déportés juifs de France, qui a lieu quelques jours donc avant la cérémonie officielle. Pourquoi décider de maintenir donc cette cérémonie distincte année après année ?
Parce que c'est une cérémonie qui a lieu le 16 juillet, et c'est pas quelques jours avant, c'est le 16 juillet. Je crois que les familles qui sont donc encore vivantes, les enfants ou les petits-enfants, ou même il y a encore des gens qui étaient des conjoints, etc., ils sont très attachés à manifester le 16 juillet leur volonté de ne pas oublier. Donc ils viennent le 16 juillet, beaucoup d'entre eux viennent d'ailleurs le dimanche le plus proche, le jour de la cérémonie officielle, mais le 16 juillet, ils ont envie de se recueillir devant l'emplacement du vélodrome d'hiver. C'est une question de sensibilité, c'est pas tellement pour les discours. Notre cérémonie est beaucoup plus brève que la cérémonie officielle. Moi je dis fais un petit speech, et puis il y a une prière, il y a une chorale pour entendre les voix en yiddish, puisque la plupart des personnes qui ont été arrêtées ce jour-là étaient d'origine de l'Est. N'oubliez pas que ceux qui ont été arrêtés ce jour-là, c'était les nationalités allemandes, autrichiennes, polonaises, russes, et que les Polonais étaient les plus nombreux, que leurs enfants français qui ont été déportés avaient entendu parler tout le temps le yiddish par leurs parents. Donc c'est une cérémonie très simple, mais je constate que chaque année il y a de plus en plus de monde. Peut-être il y a aussi plus de monde à la cérémonie officielle, mais la cérémonie officielle a commencé pratiquement une apothéose, puisque c'est à cette cérémonie officielle que le président de la République, Jacques Chirac, a prononcé son discours historique, et donc que les gens attendent moins de cette cérémonie, moins d'émotions, puisque moins d'effets d'annonce que le jour où Jacques Chirac a pris la parole.
Donc c'était en 1995, le grand discours de Jacques Chirac, où il renaissait donc le crime de l'État français de Vichy, en organisant et se rendant complice de la déportation donc et de la rafle de Veldiv.
Une mauvaise interprétation. L'effet du discours n'est pas de reconnaître les crimes de l'État français. Ça a été reconnu par François Mitterrand, hein, d'ailleurs à la suite de la pression qu'on a exercée parce qu'il déraillait en protégeant Bousquet, en déposant une gerbe sur la tombe de Philippe Pétain à côté de celle de Le Pen. Donc il a racheté en créant en 1993 la journée nationale de commémoration des victimes des persécutions racistes et antisémites et des crimes contre l'humanité commis sous l'autorité de fait dit gouvernement de l'État français. Ce que Jacques Chirac a dit, c'est qu'il a Et quand il l'a dit, il a rompu avec le général de Gaulle, avec Pompidou, avec Giscard d'Estaing, avec Mitterrand. Il a dit, ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable. C'est-à-dire qu'il a dit que les crimes de l'État français étaient à porter aussi au compte de la France et que la France devait racheter. La France a une dette imprescriptible à l'égard des victimes et il l'a mis en forme. En application avec la création de la commission Mattéoli qui a débouché sur la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sur une rente aux orphelins et sur la création de la commission d'indemnisation des victimes des spoliations. Donc la France répare les crimes qui ont été commis par l'autorité de fait dite gouvernement de l'État français, parce que ceux qui dirigeaient cette autorité de fait, eh bien, c'était un maréchal de France, un premier ministre de la Troisième République.
Donc la France assumait ce lourd héritage.
Tout à fait. Et c'est là que, parce que François Mitterrand a dit non, la République n'a rien à voir, ce qui est vrai, mais la France avait à voir avec ce qui s'est passé. La République, elle avait été mise à bas par le régime de Vichy, mais la France, elle n'avait pas été mise à bas par le régime de Vichy.
Une question plus personnelle, Serge Klarsfeld, historien, écrivain, militant et avocat de la cause des déportés juifs de France, c'est ce qu'on rappelle dans les nombreux papiers que j'ai consultés avant cette conversation et qui vous sont consacrés. À 75 ans, est-ce que vous avez aujourd'hui, en ce début d'été 2010, le sentiment du devoir accompli ?
En général, oui, il y a toujours des choses à faire, à améliorer, des projets. Mais l'essentiel est derrière nous. Oui, ça depuis déjà quelques années, largement, l'essentiel est derrière nous. On a fait juger les criminels allemands, on a fait juger les complices français, on a changé la mémoire de Vichy, on a obtenu beaucoup de résultats. Donc, l'essentiel est fait, voilà.
Et si on revient un peu en arrière, rétrospectivement, vous diriez, Serge Klarsfeld, que dans quelles conditions est née la mission qui a été la vôtre, que vous vous êtes vous-même donnée? Est-ce qu'elle est née en septembre 1943 à Nice, dans le double fond du placard où vous étiez caché, et quand vous avez entendu la Gestapo arrêter votre père? Est-ce qu'elle est née à ce moment-là ou est-ce qu'elle est née plus tard dans votre vie?
Bon, elle est née certainement à ce moment-là, puisque à ce moment-là, je suis devenu un enfant de la Shoah, donc et pendant les semaines et les mois qui ont suivi, puisque j'ai été comme pas mal d'enfants, un enfant juif pourchassé en Europe, et donc normalement, ma destination était les chambres à gaz d'Auschwitz. J'y ai échappé par miracle, mais bon, j'aurais pu ne rien faire aussi. Simplement, c'est que j'étais attaché à la mémoire de mon père. Je suis allé en 65 à Auschwitz, à une époque où les gens de l'Ouest, personne n'y allait. Donc là, j'ai eu... le choc de la rencontre avec les lieux où j'aurais dû arriver.
Et alors pourquoi y être allé, je vous interromps, pardon, mais pourquoi y être allé en 1965 alors que vous venez de dire que personne n'y allait justement?
Ben parce que il y a le côté de... J'allais avoir aussi un enfant qui a été un fils, et puis j'ai ressenti plus profondément l'absence de mon père, et je voulais garder le lien avec mon père parce que il n'y avait pas de raison de l'oublier, alors que quand on va avoir un enfant, forcément on s'attache à l'enfant, on peut laisser de côté le père qui n'était plus là depuis que j'avais l'âge de 8 ans. Mais j'ai voulu, en tant qu'historien, faire une enquête sur ce qui lui est arrivé. Je suis allé au mémorial du martyr juif, que je connaissais puisque j'avais été là à la pose de la première pierre le jour de l'inauguration, mais je n'y étais pas entré. J'y suis allé et j'ai regardé ce qui le passage de mon père, donc j'ai retrouvé un certain nombre de documents qui nous concernaient. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas plus de gens qui allaient, de juifs de France qui allaient au mémorial que au centre de documentation juive contemporaine. C'était pas un sujet qui intéressait les gens reconstruisaient leur vie et même les orphelins n'allaient pas au mémorial. À l'époque, il y avait deux ou trois personnes par jour, voilà, au plus. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de continuer jusqu'au bout. Et continuer jusqu'au bout, c'était d'aller à Auschwitz. Il fallait avoir des visas, il fallait passer par des pays, c'était la guerre froide en plein, donc je suis passé par la Roumanie, l'Union soviétique, et je suis finalement abouti à Auschwitz, et ça a été aussi un choc, c'est-à-dire la nécessité de m'engager. Mon premier engagement n'a pas d'ailleurs été la Shoah, mon premier engagement était de partir en Israël le premier jour comme volontaire, d'acheter mon billet et puis de partir pour Israël et là-bas d'aider Israël si possible. Mais le second a été d'aider ma femme dans la campagne qu'elle a faite en Allemagne contre la présence à la chancellerie d'un ancien dirigeant de la propagande hitlérienne. Et à partir de là, étant impliqué dans l'Allemagne, alors qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal de méconnaissance de ce qui se passait en Allemagne et de l'importance, alors que nous étions conscients du fait que entre un ancien propagandiste de nazi et un ancien résistant à l'oppression nazie qui était Willy Brandt, il y avait le sort de l'Europe pouvait se jouer, donc on s'est engagé, et à partir de là on s'est engagé, et je me suis engagé, constatant que les criminels nazis qui avaient opéré en France n'étaient pas étaient assurés d'une totale impunité, eh bien j'ai décidé de changer ces choses, cet état de fait, et puis à partir de là, Béat et moi, on était tout seuls, mais peu à peu, les fils et filles des déportés juifs de France sont venus se grouper autour de nous parce qu'ils voyaient qu'on était compétents et efficaces.
Alors, Serge Klarsfeld, il y avait une double dimension dans votre démarche, donc avec votre épouse. C'était à la fois donc de faire passer la justice pour les bourreaux, mais en même temps de rendre justice aux victimes. Les deux allaient ensemble.
Oui, les deux allaient ensemble. Béat se battait en tant qu'Allemande, non-juive, et moi en tant que juif de France. C'était notre badge quand on est allé en Allemagne, c'était juif de France, parce que ceux qui étaient partis étaient des juifs de France. Il y avait au moins deux tiers de juifs qui étaient des étrangers à l'époque en France. Voilà, c'était donc un combat qui était double, mais les victimes, nous ne les avons pas oubliées, parce que s'intéresser aux bourreaux, nous sommes intéressés aux bourreaux pour les faire juger. On a fait des dossiers, mais on n'a jamais écrit un ouvrage. Je me suis toujours refusé à écrire un seul ouvrage sur les bourreaux, étant donné que les bourreaux sont des gens qui sur lesquels on peut s'interroger, mais c'est leur faire beaucoup d'honneur que d'écrire un livre sur Lichka ou sur Barbie. Nous avons écrit sur les enfants d'Izieux, le mémorial de la déportation, c'est-à-dire les victimes. Et donc le mémorial de la déportation, c'est venu parce que je ne pouvais pas aller à un procès de crime contre l'humanité contre ceux qui avaient déporté la masse des juifs de France sans que la masse des juifs de France ne soit là. Comment la représenter?
Ça, c'était le grand procès de Cologne, donc à la fin des années 70.
C'est ça, il y a 30 ans, 79-80, ce procès qui a duré 3 mois, mais je ne pouvais pas y aller sans la liste des victimes. Or, les Allemands n'avaient pas détruit tous les documents, et donc les documents, en allant à Paris, au centre de documentation juive contemporaine, au ministère des anciens combattants, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Israël, en Pologne, j'ai pu arriver à faire un document, constituer un document à peu près complet, avec beaucoup de petites erreurs, mais où tout le monde a retrouvé, malheureusement, enfin, ou heureusement, tout le monde a retrouvé les êtres chers qu'ils avaient perdus. Donc ça a été un très grand choc pour la communauté. Et puis c'était à une période où peu à peu, le sujet de la Shoah est devenu un sujet porteur dans toutes sortes de même et d'expressions médiatiques, que ce soit des films, des émissions, etc. Et puis nous, on a porté de l'action, c'est-à-dire les procès en Allemagne, les procès que nous voulions susciter en France, et donc les médias ont suivi et nous avons joué un rôle de pédagogue à l'échelle d'un pays.
Alors Serge Klarsfeld, qu'est-ce qui se joue dans une forme de tension? C'est-à-dire qu'on peut parler de la Shoah, on pourrait en parler évidemment des heures et des heures, mais qu'est-ce qui se joue, vous, dans la volonté sans cesse réaffirmée que vous avez eue d'inscrire, de nommer les 80 000 déportés juifs de France, nom après nom?
Les nommer, c'est leur restituer leur identité. Quand on leur restitue leur identité, c'est lié aussi à des documents d'état civil. Donc on authentifie en quelque sorte leur passage sur la terre, sinon ils auraient disparu sans laisser de traces individuelles. Et j'ai continué avec les enfants, le mémorial des enfants juifs déportés de France, en ajoutant l'adresse de chaque enfant, l'adresse d'arrestation. C'était de très très longues recherches, mais ça a permis depuis d'avoir des milliers de plaques commémoratives pour les enfants. Les enfants sont sortis de l'ombre, de l'oubli, ils ont réapparu chacun avec une histoire, et comme sont des enfants, les populations s'y intéressent, les élèves s'y intéressent. C'est-à-dire qu'on se souvienne des enfants juifs qui ont été déportés de France, qu'on s'en souvienne collectivement, parce que c'est un travail collectif, mais également individuellement. Donc nous, on a recherché des photos, on a trouvé plus de 4000. Elles sont actuellement au mémorial de la Shoah à Paris, mais elles sont à New York, au mémorial de la Shoah, au Museum of Jewish Heritage, mais elles sont également à Auschwitz, au pavillon français. Donc les enfants ont revécu, et maintenant je termine, j'espère encore cette année, le mémorial de la nouvelle édition du mémorial de la déportation avec l'adresse d'arrestation de chaque juif, parce que il faut savoir ce qu'a été la Shoah, c'est-à-dire qu'on a arrêté les juifs dans les grandes villes, dans les petites villes, dans les villages, dans les hameaux, en fonction de leur nationalité, de leur caractère déportable, et donc tout cela doit être connu, comme doit être connu, et j'ai été le premier à le mettre en lumière, c'est-à-dire le fait que la population française, non juive, a aidé les juifs, a été le meilleur rempart contre la déportation des juifs par la pression qu'elle a exercée sur le gouvernement de Vichy, qui a freiné sa coopération policière massive avec la Gestapo à partir du moment où le gouvernement s'est fait taper sur les doigts par la base de la population en zone libre, et par l'épiscopat français, qui était pétainiste mais qui ne supportait pas que l'on arrête des familles juives pour les livrer aux Allemands. Donc la population française a joué un grand rôle. J'ai pu le montrer historiquement, pas simplement dire des phrases, mais le montrer tout à fait clairement et par la méthode historique. Donc ça, c'est très important.
Alors Serge Klarsfeld, on se dirige vers la fin de cette conversation. Une dernière question, justement dans l'un des articles qui vous était consacré, que je lisais, dans une interview plus exactement, vous interrogiez un peu sur le sens du travail que vous avez accompli. Vous disiez, il y a déjà maintenant tant de livres d'histoire, tant de livres de témoignages, et là je vous cite, j'ouvre les guillemets, « jamais un événement, donc la Shoah, n'est entré dans l'histoire avec une telle masse de documentation ». Qu'est-ce que ça pose comme question? Apparemment, vous vous posiez des questions au moment où vous faisiez ces déclarations, justement sur l'avenir de cette mémoire.
Bah, l'avenir de cette mémoire, il est la base de l'avenir, c'est-à-dire la documentation précise, rigoureuse, au début par des amateurs, mais depuis 30 ans, on peut dire, par des thèses, cette base, elle est assurée. Quant à l'avenir, il va dépendre des événements politiques. Si un régime d'extrême droite prend le pouvoir dans un ou plusieurs pays ou tous les pays européens, que ce soit en 2100 ou en 2800 ou en 12300,
nous sommes encore là.
Cette base-là, enfin disons, l'avenir de la mémoire sera interrompu. On peut imaginer des régimes qui essayent de trouver dans les bibliothèques tous les ouvrages pour les détruire et faire en sorte que... Bon, on ne sait pas. L'avenir, on ne sait pas. L'important, c'est qu'il n'y aurait pas d'avenir s'il n'y avait pas eu cette gigantesque travail historique et de témoignage qui a été accompli. Je suis heureux d'avoir pris part à ce travail. Mais comme nous ne connaissons absolument pas l'avenir et qu'il n'existe pas tant qu'il ne se produit pas, eh bien, tous les dangers sont devant nous et également toutes les possibilités de maintien de cette mémoire. Donc, nous ne saurons jamais quel sera le résultat. Il faudrait être là à la fin, au jour du jugement dernier, mais ça c'est, disons, improbable ou peu probable.
Serge Klarsfeld, je vous remercie.
Merci à vous.